Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Mélanie Lepoultier, je suis conseillère départementale du canton de Bayeux. Je suis ravie, au nom du département du Calvados et de la ville de Bayeux qui est à nos côtés, ravie de vous accueillir pour cette première soirée sous chapiteau du 24e prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Alors cette première soirée, celle du jeudi soir, elle est toujours un petit peu particulière parce qu'elle suit un des temps peut-être les plus forts de cette semaine du prix Bayeux, à savoir le moment hommage au mémorial des reporters cet après-midi. C'est toujours un temps extrêmement émouvant, extrêmement fort de cette semaine. Et donc c'est toujours un petit peu compliqué après d'enchaîner après ces passages aussi importants. Alors la semaine du prix Bayeux, c'est, comme je le disais, une semaine de temps fort autour d'expositions que je vous invite à aller voir dans différents lieux de la ville et même en extérieur. Ce sont des temps forts avec des séances au cinéma aussi pour vous présenter différents films et documentaires. Des temps forts d'échange avec les journalistes qui sont si nombreux chaque année à nos côtés autour des tables rondes. C'est également le Salon du Livre, c'est le Prix du Public où vous êtes aussi nombreux à participer, auquel vous êtes nombreux à participer chaque samedi, chaque année. La soirée de clôture, bien entendu. Voilà, tous ces temps qui rythment cette semaine du Prix Bayeux et qui nous invitent à réfléchir sur sur ce monde, sur cette réalité qui nous entoure. Alors ce soir, soirée très particulière aussi parce que c'est une avant-première mondiale. On a la chance ce soir à Bayeux de pouvoir assister à cette projection du documentaire Mossoul d'Olivier Sarbine qui est à nos côtés ce soir et que je remercie parce que je sais qu'il a travaillé d'arrache-pied pour finir le montage et le sous-titrage pour ce soir. Donc un grand merci. Il va être avec nous ce soir pour le temps d'échange qui va suivre la projection pour ce temps d'échange animé par Loïc Bérou et en compagnie de Laurent Van der Stock et Gwendoline de Bonneau qui vont être là, qui pourront répondre à vos questions. Je pense que c'est aussi un ADN du prix Bayeux, c'est de pouvoir échanger avec les journalistes sur ce qu'ils font, sur leur quotidien et sur le pourquoi de ce choix de profession. Donc je vous souhaite une très belle soirée et puis un bon prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre.
Bonsoir et merci d'être avec nous parmi nous ce soir. Loïc Bérou, je travaille pour France 24 qui s'honore d'être l'un des partenaires de ce festival. Et nous remercions vivement les autorités municipales, régionales, de permettre de le faire vivre, et on est tous extrêmement reconnaissants. Ce soir, vous allez voir un film donc, qui est en exclusivité mondiale, qui a été monté avec un peu de rush par Olivier Serville, puisqu'il sera l'objet d'une première diffusion sur PBS, qui est la chaîne publique américaine, le 18 octobre, dans un format de 55 minutes qu'on va vous exposer. Donc on va regarder le film, et ensuite on aura un panel de gens qui cumulent à eux 5 ou 6 ans de séjour en Irak, voire en Syrie. Il s'agira de Laurent Van der Stock, que vous connaissez peut-être, c'est un habitué de Bayeux, et de Gwendoline de Bonneau, qui est une reporter d'Europe 1, qui a passé beaucoup de temps, elle aussi, en Irak. Et je laisse tout de suite brièvement la parole à Olivier, qui voudrait vous présenter un peu le film.
Bonsoir, messieurs, dames, merci d'être venus ce soir. Je voulais m'excuser brièvement sur le sous-titrage du film en français. Malheureusement, nous avons dû travailler assez rapidement sur le sous-titrage, donc il y a quelques petites erreurs. Donc je vous remercie et je m'excuse d'avance sur les petites erreurs du sous-titrage.
Je crois que tu seras largement excusé.
Thank you.
vais faire un rapide tour de table avec nos invités, Gwendoline de Bono, Laurent van der Stock, Olivier. Et on vous laissera. On essaiera de vous laisser au plus vite la parole une fois que vous aurez digéré un peu ce film. Olivier, tu as travaillé seul, c'est-à-dire sans équipe technique, mais aussi sans traducteur. J'imagine que ce n'était pas un manque de moyens, mais un parti pris. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ?
Oui, depuis le début, j'ai voulu partir seul pour couvrir la bataille de Mossoul. Je n'ai pas emmené avec moi de traducteur, je ne parle pas arabe, mais je pensais qu'avoir une personne entre moi et les caractères que je suivais, ça pourrait... j'aurais pu perdre la connexion que j'aurais pu avoir avec les caractères que je suivais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir sans traducteur. Aussi, c'était très difficile, je ne voulais pas rentrer tout de suite, je voulais rester sur place le plus longtemps possible, plusieurs semaines. Et je ne pouvais pas prendre la responsabilité d'emmener quelqu'un avec moi et de lui demander de rester sur des périodes longues, sur des terrains aussi difficiles.
Combien de séjours auprès de cette unité et pour combien de semaines à la fois ?
J'ai fait environ 4 séjours et en général, je restais entre 4 et 6 semaines sur le terrain.
Cette question suivante s'adresse un peu à tous les trois. Cette bataille a été longue, elle a été marquée par une vraie politique de communication des forces alliées en général, de l'armée irakienne en particulier, et de la Golden Division auprès de laquelle tu te trouvais encore en particulier. Ça veut dire aussi qu'ils vous ont fait prendre des risques qu'aucune armée occidentale ne vous aurait laissé prendre. Comment est-ce qu'on part auprès de la Golden Division au bout de 3 mois quand on sait qu'ils ont eu en gros 40% de leurs effectifs soit morts, soit blessés? Comment on part au front, pour ton deuxième séjour par exemple, ou ton troisième séjour, ils étaient 10 au départ, ils sont 9, ils sont 8, quand on sait qu'il y a ce qu'on appelle en termes militaires un taux d'attrition considérable dans cette bataille.
Je n'ai pas choisi les équipes, le corps d'armée des forces spéciales au hasard, c'était les seules troupes en qui j'avais confiance. J'avais rencontré le groupe de Anmar, le lieutenant que j'ai suivi pendant le film, pendant la bataille de Fallujah. Et je leur ai fait confiance. Donc partir au combat avec eux, même si le terrain était difficile, je leur fais confiance.
Laurent ou Gwendoline ?
Non, simplement, il y a différentes unités qui ont effectivement combattu à Mossoul, donc les forces spéciales qui ont fait la majorité du travail, quasiment toute la partie est de la ville, donc Mossoul, voilà, il y a une partie ouest, partie est avec un fleuve au milieu. Effectivement, il y a les forces spéciales, ensuite il y a l'ERD qui a combattu, il y a aussi la police fédérale, la 9e division, la 16e division. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des niveaux de formation, des niveaux au combat extrêmement différents. Donc c'est effectivement pas pareil. Voilà, je ne sais pas si c'est possible de faire 9 mois de bataille avec la police fédérale et d'en sortir. Mais voilà, c'est juste pour situer un peu, il y a des unités assez, assez différentes.
Moi, je voudrais juste dire que une situation dans laquelle on a en même temps les autorisations pour le faire et en même temps un niveau de sécurité qui correspond au professionnalisme des gens qu'on voit là, qui n'ont pas du tout les mêmes mécanismes de fonctionnement que l'armée ou la police fédérale, donc qui sont les forces spéciales des services contre-terroristes. Enfin, réunir un ensemble de choses qui permet d'être aussi proche de ces gens pendant autant de temps et de les observer de cette façon-là, c'est quelque chose que je ne crois pas qu'on rencontre très souvent. C'est sans doute que parfois on finit par mélanger tellement en documentaire on arrive à faire des choses qui ressemblent à la fiction que que parfois on s'en mélange, on finit par confondre, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir été aussi proche de ces êtres. Enfin, j'ai vu beaucoup de plans, je vois beaucoup de plans serrés sur des visages pendant les entre-deux. Quand les visages sont intérieurs comme ça, au moment où il ne se passe rien, qui sont quand même au moins 50% du temps d'activité d'une bataille qui dure aussi longtemps, je n'ai pas de souvenir d'une situation dans laquelle on peut collecter autant de proximité, d'intimité avec des gens qui sont en fait depuis 2 ans en train de se battre et qui vont continuer et qui réussissent en plus, enfin, à peu près, à faire ce qu'ils ont à faire dans les circonstances qui sont.
Ce sera justement ma dernière question. Il y a une telle disproportion de moyens entre ces hommes qu'on voit qui sont parfaitement entraînés, par les Américains en particulièrement, qui bénéficient de munitions et d'armements considérables et d'un support aérien, ce qui n'était pas du tout le cas du camp adverse. Comment se fait-il qu'il ait fallu tant de temps et qu'il ait fallu, en gros, aplatir la partie est de Mossoul au même titre que certaines villes normandes ou Dresde ou Berlin ont été aplaties.
Elle n'a pas été aplatie, la partie est de Mossoul.
La partie ouest, pardon. Partie ouest de Mossoul, ville, ouais. Du Tigre. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour en arriver à cette victoire?
Parce que la majorité des civils sont restés dans la ville. Et que ça ne s'était pas tellement produit avant. À Tikrit, beaucoup de civils étaient partis. Fallujah, il y avait eu des corridors pour à la fois les combattants de l'État islamique et les civils. Il y avait encore des civils dans la ville, mais il y avait des civils qui étaient partis pour une partie. Ce n'était pas le cas à Mossoul. Mossoul, il y avait, alors c'est des estimations, c'est toujours un petit peu compliqué, mais à peu près 1 million de civils dans la ville quand la bataille commence. L'État islamique ne laisse pas sortir les civils et l'armée irakienne, elle non plus, décide que ça va être trop compliqué de laisser sortir les civils. Pour plein de raisons. Et d'ailleurs, les gens de Mossoul le disaient très bien. Enfin, il y en a plein qui ne voulaient pas partir parce qu'une maison qu'on quitte, c'est une maison qui est pillée, c'est une maison qui est après réoccupée par l'État islamique. Tout un ensemble de circonstances qui font que c'est une bataille avec 1 million de civils à l'intérieur d'une ville. Donc c'est évidemment extrêmement long. Et d'ailleurs, Anmar, le lieutenant, le dit. Bien sûr que ça aurait été plus vite s'ils n'étaient pas là. Ils ont dû faire avec les civils et bien faire avec les civils.
Pour autant, tu le soulignes à la fin, il y a 20 000 civils qui sont morts dans cette guerre quand même.
On n'a pas encore vraiment de chiffres exacts sur le nombre de victimes civiles. Les derniers rapports des Nations Unies sont d'à peu près 19 000, je crois. 19 000 de on appelle casualties, comment tu dis ?
Victimes
tuées et blessées, mais il n'y a pas encore de chiffres exacts sur les pertes civiles sur la bataille de Mossoul.
Je crois, si je ne me trompe pas, qu'Amnesty disait avant la bataille, avant l'offensive sur la vieille ville, donc qui a été une grosse partie, où il y a eu beaucoup de pertes civiles, qu'il y avait environ, et de toute façon ce sera toujours très compliqué de donner des chiffres, mais 7 000 civils qui étaient morts, en tout cas jusqu'ici. Donc c'est assez compliqué de donner un chiffre aujourd'hui, je pense.
Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Il y a des micros qui circulent normalement? Est-ce que quelqu'un peut lever la main si vous avez une question? Je n'en vois pas. Vous avez... je vais en poser une à Olivier. Parmi tes 10 personnages, d'après ce que tu m'en as dit, il y avait 8 chiites, 1 sunnite et 1 yézidi, c'est ça, à peu près?
Il y avait, sur les 10 soldats du groupe d'Anmar, il y avait 1 sunnite et 1 yézidi. Les autres étaient chiites.
Donc on a une armée assez massivement chiite qui va libérer des populations civiles massivement sunnites qui ont parfois accueilli Daesh pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici avec un relatif soulagement. Est-ce qu'on n'a pas là les germes de conflits futurs demain?
C'est un peu l'inverse qui s'est passé à Mossoul. C'est que bon, les forces spéciales pour la partie est de Mossoul, donc quand la bataille commence, justement, qui vont libérer cette ville majoritairement sunnite, dans les forces spéciales, il y a des sunnites, des chiites, mais effectivement, c'est plus chiite. Mais c'est des gens qui pensent à leur pays et qui sont une force anti-confessionnelle, enfin, qui ne pensent pas avec tellement, avec beaucoup de confessionnalisme. Et justement, ça les... Et effectivement, les civils ont peur, parce qu'il y a eu aussi la propagande de l'État islamique avant, qui leur a expliqué que ça allait être un drame quand l'armée irakienne allait rentrer. Donc on est avant novembre. Donc voilà, ils sont... Il y en a qui racontent qu'on leur projetait sur des places des images d'exactions de milices, justement, qui n'ont pas combattu à Mossoul. Donc c'est vrai que les civils avaient assez peur. Et en fait, ils vont se retrouver sur l'est de Mossoul, novembre, décembre, janvier, février, avec des forces spéciales, donc, qui est pour eux le retour de l'État irakien, qu'ils n'ont pas vu depuis 2 ans, et qui sont des gens qui pensent contre... ce que plein de gens pensent dans ce pays, contre chiites, sunnites, ils pensent l'Irak, leur pays... Et ils ont conscience que de la manière dont ils vont libérer, dont ils vont pousser la porte, va dépendre la perception. Enfin, ils vont laisser une certaine perception aux gens de Mossoul, et ça, ils en sont très conscients.
J'étais un peu plongé dans le film. J'étais encore en train de... Je ne vous ai pas écouté. Je revoyais le film d'Olivier, pardon. D'ailleurs, j'ai envie d'insister un petit peu. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'une situation qui permette de réunir en même temps autant de présence sur place. Je crois qu'on a demandé à Olivier combien de temps il était resté, enfin comment il avait fait. Il a dit j'ai fait 4 voyages en 6 mois. J'ai l'impression que Olivier il est resté non-stop pendant 6 mois avec ses amis à Pince là. Pour ramener le... Alors, après, il y aura sans doute 1000 manières d'interpréter comment ça a été monté, réalisé. Mais pour ramener la matière de ce qu'on vient de voir, c'est jour et nuit dans la même vie que ces gens-là, et c'est dans la situation où ils sont. Et c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et de conviction et de force de caractère. Et de, bravo.
Je te remercie, Laurent.
Merci.
Est-ce qu'il y aurait des mains qui se lèvent dans l'assistance? Bonsoir. Là-bas au fond.
Ah, là. Attendez, s'il vous plaît.
Quelqu'un a déjà un micro, mais je ne vois pas.
Oui, on m'a donné un micro. En face de vous, tout au fond. Merci. Bonsoir, j'aurais juste voulu vous reposer une question à propos des victimes civiles dont vous parliez tout à l'heure. Mis à part le problème de l'évacuation de Mossoul, des civils, ça aurait été pour savoir si on a des informations sur les causes directes de ces victimes civiles.
En fait, les... Je suis... Ah non. Je ne sais pas exactement comment sont mis en place les calculs des organismes les uns et les autres pour le faire. On sait par expérience et d'observation directe que beaucoup des victimes civiles ont été faites par les bombardements des autres forces que celles des forces spécial du contre-terrorisme qui était aidé par les frappes de la coalition aérienne qui sont on ne peut plus précises et précautionneuses et attentionnées, mais il y a les deux autres forces en présence qui ont participé à la bataille de Mossoul qui elles ont des méthodes beaucoup plus rustiques qui sont de l'artillerie traditionnelle mais à peine organisée convenablement et au fur et à mesure de l'avancée de la bataille on a observé que et les hélicoptères de l'armée fédérale de l'armée et de la police fédérale et les bombardements d'artillerie des deux forces en question étaient assez imprécises et faisaient forcément des victimes civiles. Après, et pour ceux qui ont observé sur place et qui peuvent un peu comparer avec d'autres situations, il faut qu'on garde en tête que c'est les civils eux-mêmes qui demandaient l'intervention et que je crois que c'est quand même un espèce, quel que soit le, pardon, il y a des chiffres sur le nombre de morts de civils qui sont totalement incohérents. On sait que ça doit être plutôt dans les chiffres que Gwendoline vous a dit, mais ça reste extrêmement petit par rapport à ce qu'une situation comme celle-là laissait envisager. Je pense que tous les gens qui voyaient à peu près la situation de Mossoul, c'est 1,5 million d'habitants à l'intérieur, Daesh, la nature de l'ennemi qui occupe une ville. Donc ça veut dire une guérilla urbaine, enfin, ça pouvait être une catastrophe bien plus grave. Sur le comptage, c'est compliqué évidemment, je crois que c'est un peu tôt pour...
J'ai vu d'autres mains se lever.
Là-bas.
Vous m'entendez ?
Bonsoir, je voulais savoir, sachant que vous étiez tout seul et que... Enfin, est-ce que vous aviez un fixeur pour retrouver à chaque début de mission l'équipe de soldats que vous suiviez?
Et une autre question, avez-vous gardé contact avec les soldats du film?
Pour le fixeur, non, je n'avais pas de fixeur. Je n'avais pas de fixeur avec moi. J'ai voulu partir seul pour couvrir cette bataille. J'avais rencontré ce groupe de jeunes soldats des forces spéciales quelques mois plus tôt pendant la bataille de Fallujah. Et ce qui était important pour moi, c'était vraiment de rester en contact avec ces jeunes soldats. Si j'avais eu peut-être la présence d'un traducteur avec moi, d'un fixeur avec moi, comme je l'explique un peu plus tôt, il y aurait une personne entre nous. Forcément, les soldats ne seraient pas forcés à créer cette connexion avec moi et j'aurais perdu quelque chose. J'aurais perdu le contact, peut-être j'aurais pas été aussi proche avec ces soldats. Oui, je suis en contact avec eux régulièrement. Pour le film, j'ai dû retourner filmer certains d'entre eux. Certains sont à Diyala, d'autres dans le nord de l'Irak, d'autres à Bagdad. Et je suis toujours en contact avec eux. Malheureusement, beaucoup de ceux qui sont même aujourd'hui dans le film ont été déjà tués, de nouveau. Et il y a encore de nombreux blessés. Mais je suis toujours, oui, je suis toujours en contact avec eux.
D'autres questions dans la salle ?
Oui. Vous m'entendez ?
Oui, ça fait longtemps.
Vous m'entendez ?
Oui.
D'abord, merci pour ce film magnifique. Franchement, c'est un témoignage brillant et très éclairant et très sensible.
Mais merci.
J'aimerais revenir sur la question de la traduction. C'est quelque chose d'assez essentiel quand on est sur le terrain, de pouvoir communiquer parfois des informations essentielles. Il y a des informations essentielles de différentes sortes. Il y a des informations essentielles liées à la personnalité des personnages qu'on côtoie. Et puis, il y a des informations liées à la sécurité, liées au mouvement sur le terrain. Comment ça se passe? Ils parlaient l'anglais, ces gens?
C'est vrai, je ne parle pas l'arabe, mais il y a mille et une façons de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne parlent pas la même langue. Qu'il s'agisse des mains, qu'il s'agisse d'un sourire. Vous savez, si vous suivez ces gars au combat, si vous suivez une équipe de commandos de tête des forces spéciales, même si j'avais un fixeur avec moi, au combat, le fixeur n'aurait pas pu demander au chef de groupe, à aucun des soldats, ce qui se passe. Tout se passe très vite. Ce qui est important pour moi, c'est surtout de les suivre, c'est de faire ce qu'ils me demandent de faire et d'être toujours conscient de l'espace dans lequel je bouge avec eux. Ne pas parler le langage, pour la sécurité, ne me gêne absolument pas. Si vous apprenez à les connaître, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec eux, avant même l'offensive, j'ai passé plusieurs jours sur leur base arrière, afin vraiment de comprendre quelles étaient leur tactique d'action au combat sur le terrain pour que je puisse vraiment me définir avec eux quand ils partent à l'attaque. Mais encore une fois, s'il y a un danger quelconque, d'ailleurs on voit une petite scène dans le film quand il y a une voiture piégée, et je pose tout simplement la question en anglais « where ?» et le gars ne comprend pas mon anglais, mais quand même, il tend son bras et il pointe la direction de la voiture piégée. Donc il y a toujours mille et une façons de se faire comprendre, même sans parler la langue.
Et aussitôt après, il te dit « Olivier, range-toi oui. ». C'est quand même quelque chose de... Laurent, toi qui as connu quelques guerres avant celle-là, la voiture suicide, et tu en as connu une de particulièrement près, c'est quand même un risque particulier qui est permanent, omniprésent, et c'était l'une des méthodes de défense de Daesh. Comment on peut contrer ça ?
On a un ami journaliste qui a appelé ça les frappes aériennes de Daesh. Mais c'est un gros problème pour une armée même bien équipée, bien entraînée, bien professionnelle, parce qu'effectivement il n'y a pas de réponse prévue à ça. Oui. Donc ça a été organisé très vite et avec pas mal, assez judicieusement par certains. En l'occurrence les bulldozers qui faisaient des terre-pleins, enfin des remblais pour empêcher les voitures d'accéder à la colonne. Des forces qui entraient dans la ville. Les blindés résistent assez bien. Après, quand la distance est trop réduite entre l'explosion de la voiture blindée et un véhicule même blindé, ça ne fonctionne plus. Mais on parle toujours des véhicules blindés et de leurs effets, c'est à la limite, pourquoi pas, si c'est la seule arme qu'ils ont trouvée. Ce qui reste étonnant, c'est leur nombre, et surtout qu'il faut chaque fois quelqu'un qui décide de se suicider avec, c'est d'avoir trouvé un millier, parce que je crois qu'en en février, on était à 700 voitures suicides, c'est-à-dire à peu près à la moitié de l'opération. Il y avait déjà eu 700 voitures suicides qui avaient explosé. Ça veut dire 700 fois une personne qui sait qu'elle va se mourir dans les minutes qui suivent. C'est la vraie question, et le vrai problème d'ailleurs pour l'armée d'en face, c'est d'avoir un ennemi qui veut mourir en fait. Il n'y a pas vraiment de solution à ça. En fait. Mais la quantité reste curieuse et incompréhensible.
Je voulais répondre brièvement. Le jeune lieutenant Anmar, le chef de groupe, parle anglais. Donc c'était le seul gars du groupe qui parlait anglais.
Et donc, pour répondre à la question, quand tu voulais savoir où ils étaient et où tu allais les retrouver quand tu y revenais, tu pouvais dialoguer avec lui sur Internet ou... Pour vous donner un point de rendez-vous, en gros.
J'étais en contact toujours avec le commandant de l'unité et je passais directement par lui, par ses hommes, et je connaissais leur position, donc je m'en rendais régulièrement, je pouvais les retrouver facilement.
Il a 26 ans, il est quand même, vous l'avez tous constaté, il est d'une grande maîtrise, d'un grand calme dans toutes les circonstances. C'est un guerrier incroyable, ce Anmar.
Il a déjà pas mal d'expérience, il s'est battu à Ramadi, il s'est battu à Fallujah, il se bat déjà depuis quelques années. C'est vrai qu'il a toujours eu beaucoup de sang-froid et beaucoup de respect pour ses hommes.
Des questions encore ?
Oui, je voulais poser une question à Olivier. Quelle préparation tu as suivi justement pour pouvoir filmer sur ces scènes de combat ?
J'ai déjà une expérience sur les zones de guerre. Je m'excuse, je ne vois pas où est la tente.
Vous êtes où ? Vous pouvez lever la main ? Là-bas.
Ah, pardon. J'ai déjà une expérience sur les zones de guerre. Préparation, c'est essentiellement me préparer physiquement et mentalement, mais bon, encore une fois... Sans trop grande prétention, j'ai aussi une petite expérience dans l'armée française qui m'aide toujours quand je me rends sur les zones difficiles. Pas forcément une préparation de plusieurs mois physique pour me retrouver sur des zones de combat.
Il y avait un jeune homme ici au troisième ou quatrième rang.
D'abord, bravo pour ce film magnifique. Les images sont sublimes. C'est très, très bien tourné.
Merci.
Dans le film, on voit, enfin, on entend surtout les combattants qui témoignent de leur état au moment de leur retour. Vous qui avez vécu pas mal de situations similaires, comment allez-vous ?
Je vais bien, mais pour revenir à ces soldats, j'ai été surpris qu'ils se confient assez facilement de leur situation. J'étais surpris qu'ils m'avouent pleurer, penser à leurs camarades, souffrir de post-trauma. C'est en français, on dit post-trauma, comment on dit ? C'est ça. Pour moi, quand je suis rentré de la bataille de Mossoul, évidemment, c'est toujours un peu difficile, mais j'ai été occupé à travailler sur le montage du film pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et donc je ne souffre pas. Et toi, alors, Nadoline,
ça va,
Laurent, ça va. Oui. Tout va bien, quoi.
Ça m'amène une autre question. Tu as dit que tu es allé les voir pour toutes les interviews posées, tu es retourné les voir chez eux.
Oui.
Comment ces types qui nourrissent, qui ont des liens aussi forts entre eux, qui ont des degrés d'adrénaline absolument invraisemblables sur le terrain, comment eux, ils se retrouvent comme des bons civils en famille avec leurs femmes et enfants une fois qu'ils reviennent à Bagdad ou ailleurs ?
Comme beaucoup de soldats, et pas forcément les soldats de l'armée irakienne, la vie dans le monde civil n'est pas toujours facile. Beaucoup d'entre eux souffrent de post-trauma. C'est difficile.
Il y a une prise en charge de ce post-trauma ou on les laisse livrer à eux-mêmes ?
Je ne crois pas qu'il y ait une prise en charge. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait une prise en charge. Laurent ?
Ouais. Par contre, il y a un truc assez qui doit être un petit peu comme les choses sont organisées là-bas. De façon, je sais que si quelqu'un ne se sent pas bien, il peut rentrer chez lui. C'est assez étonnant de voir à quel point un combattant des forces spéciales peut soudainement avoir disparu du combat et plus tard on dit ah non mais lui mais non ça allait pas bien, valait mieux qu'il reste chez lui. Et en fait, je pense que ça se fait pas dans les mêmes normes que chez nous et avec les mêmes les mêmes configurations et les mêmes techniques et les mêmes analyses et les mêmes c'est pas encadré comme chez nous, mais c'est pas interdit de quitter le terrain si on a des raisons impérieuses personnelles.
Encore une question ? Madame au troisième rang, ici à droite. S'il y a un micro qui peut lui arriver. Ah, désolé, en attendant, il y a une question en haut à gauche là-bas.
Vous parlez dans votre reportage qu'il y a des femmes et des enfants en kamikaze avec Daesh. Et je voulais savoir si vous aviez vu des enfants kamikaze et des enfants soldats.
Dans le film, il y a eu des enfants kamikazes, de jeunes enfants d'une douzaine, 14 ans. Je crois qu'il y en a même une, même plus jeune. Oui. On entend un, le témoignage, les dernières volontés de l'un d'entre eux.
Parce qu'ils interceptent leur communication, c'est ça ? C'est les communications de l'État ?
Oui, on était dans le véhicule, dans la MV, et l'un d'entre eux utilisait son téléphone. Il a réussi à intercepter avec son 3G une petite communication radio de Daesh, où un kamikaze donnait ses dernières volontés avant de commettre une attaque suicide. Mais je n'ai pas, je ne sais pas si toi tu en as vu des enfants kamikazes.
Moi, j'ai un souvenir de voiture se dirigeant vers nous, et évidemment, je ne savais pas qui était au volant, mais le radio du Humvee dans lequel j'étais, qui a vu exploser la voiture du gamin en question, avait capté la communication radio, et il m'a traduit ensuite. J'entendais bien qu'il y avait des voix adultes et une voix très jeune qui devait être celle d'un jeune adolescent de 14 ans qui en fait essayait de se diriger vers nous et qui est parvenu, sauf qu'il y avait un de ses remblais fabriqué par les bulldozers en question qu'il avait du mal à contourner. Et donc cette voiture qui est arrivée devant nous a soudainement fait demi-tour, et j'entendais les deux voix, des voix adultes et les voix d'enfants. Et ensuite, il a fini par se faire exploser à 50 mètres devant nous. Et ensuite, le radio du Humvee m'a traduit ce qui était en train de se dire, parce que tout ça s'est passé excessivement vite. Et en fait, évidemment, il y avait des adultes qui étaient en train de... qui était en train de pousser ce gamin qui, en fait, lui, était au volant de la voiture suicide, qui disait « Mais je n'y arriverai pas, je ne trouve pas le chemin. » Il disait « Je ne trouve pas le chemin. » Parce qu'il n'arrivait pas à contourner ce remblai qui avait été fabriqué là, juste devant, par les bulldozers. Et il y avait plusieurs adultes qui le poussaient, qui lui disaient « Si, va tuer les couffards, vas-y, tu vas y arriver, tu iras au paradis. Enfin, » Et en fait, la voix de l'enfant devient de plus en plus stressée, et il hésite, il fait une marche arrière, il fait une marche avant, il ne trouve pas vraiment le chemin, il se fait exploser à 50 mètres. Enfin, c'était la voix d'un gamin qui était au volant d'un autre Humvee qui avait été volé à la... C'était un Humvee beige qui avait été volé à l'armée, qui avait été transformé en voiture suicide.
Gwendoline, on sent l'extrême nervosité des soldats dès qu'ils ont affaire à des populations civiles, avec la suspicion qu'il puisse s'agir de militants de l'État islamique, ou même quand il s'agit de gamins. Comment peut s'exercer la justice, puisqu'on entre dans une phase de relative après-guerre ou de relative accalmie? Comment l'état de droit peut-il être restauré? Comment il y aura des tribunaux spéciaux pour juger les anciens de Daesh? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a une idée?
Alors moi, quand j'étais, il y avait des tribunaux qui étaient mis en place, mais c'était des audiences préliminaires pour qu'après les procès commencent. Donc évidemment, c'est compliqué, parce qu'évidemment, c'est sur dénonciation, souvent. Alors bon, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des preuves, il y a des gens qui sont lâchés faute de preuves, il y a des gens qu'on dénonce, mais alors parfois, c'est... En fait, ce conflit contre l'État islamique et la justice sert à régler des obscurs conflits de voisinage qui datent depuis il y a bien longtemps. Donc on dénonce le voisin pour des raisons qui n'ont évidemment rien à voir. Et tout ce monde-là se retrouvait dans une ville qui s'appelle Gaïra, au sud de Mossoul, dans des tribunaux, mais qui n'étaient pas les vrais débuts d'audience. Là, les procès ont commencé. Il y a des gens qui ont été condamnés à mort quand quand il y a des preuves, en tout cas qu'on est jugé ayant été membre de l'État islamique, c'est la peine de mort en Irak. Voilà, après, ça va être... ça, c'est pour la partie qui est en train de se mettre en place au niveau justice. Après, dans la ville, oui, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué.
Il faut savoir que les personnes qui sont emmenées devant un tribunal... Et les hommes qui sont arrêtés après un premier check pour être emmenés devant un tribunal sont seulement ceux dont on est sûr, enfin dont on peut soupçonner qu'ils ont porté une arme ou ont été des collaborateurs proches. Il y a énormément d'hommes qui sont a priori libérés parce que la question ne se posera pas.
Et à la fin, dans la vieille ville, donc il y avait une concentration d'unités très différentes, comme je disais, avec des niveaux différents. À la fin, quand les civils sortaient, pour certains qui sortaient par exemple par le nord, où ils tombaient sur des unités de l'armée irakienne, ou des unités de police fédérale, donc avec des niveaux moindres, la justice a été assez expéditive. Bien sûr que des civils sont sortis, ont été tués, sans tellement prendre le temps de faire les checks qui ont été, enfin tous ces passages, ces screening points. qu'il y avait auparavant. Donc il y a quand même toute une partie de la justice qui s'est fait comme ça, avec aussi des soldats irakiens qui étaient fatigués. C'est pas du tout une excuse, c'est ce que eux aussi disaient. Ils disaient, enfin moi je me souviens d'un soldat qui me disait, mais de toute façon il y a tellement de corruption dans ce pays que je sais très bien que ça s'est pas du tout passé comme ça tout le temps, mais en tout cas cette fois-ci, mais je sais très bien qu'ils pourront sans doute payer pour sortir. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, qu'ils pourront payer pour sortir. Et de toute façon, s'ils sortent pas, c'est la peine de mort. Et donc en fait, la peine de mort, c'est moi qui vais la donner maintenant. Et ça s'est passé comme ça à la fin dans la vieille ville avec certaines unités, puisqu'on parle de justice.
On a beaucoup entendu parler sur le théâtre syrien de djihadistes étrangers qu'ils viennent du Caucase ou qu'ils viennent d'Europe. Est-ce que c'était le cas à Mossoul aussi, ou j'ai pas le sentiment du tout, Olivier?
Personnellement, je n'ai les seuls combattants de Daesh que j'ai pu rencontrer, c'était des morts. Les identifier comme étant des combattants étrangers, ça personnellement je n'en ai pas rencontré.
Après, dans ce que les gens racontent, il y avait des quartiers à Mossoul très identifiés comme des quartiers d'étrangers. Il y a un quartier par exemple à l'est de Mossoul, près du fleuve, où il y avait par exemple plein de Français qui vivaient là-bas. Et ça, bon, les gens de Mossoul le racontaient. D'ailleurs, des fois c'était assez amusant. Ils disaient oui, il était français, il est venu nous dire que c'était formidable, qu'il est arrivé dans le califat. Et donc, c'était un commerçant, en l'occurrence, qui vendait du poulet, qui racontait ça. Et il me disait, califat, tu viens d'où? De France. Enfin, retourne en France, qu'est-ce que c'est que cette histoire de califat? Et donc, voilà, qui se sont greffés sur la population de Mossoul. Donc, il y avait des Français, des Anglais, des Européens, beaucoup de Tchétchènes, effectivement, gens du Caucase, mais quand même une grande majorité d'Irakiens qui combattaient. Parce qu'à un moment donné, les Irakiens ont pu dire... C'est des étrangers. Dans les quartiers, on entendait parfois ça. C'est pas des gens du quartier, donc ça se fait à l'échelle du pays. C'est pas forcément des Irakiens. L'échelle du quartier, c'est pas des gens du quartier. Si, c'était quand même beaucoup des Irakiens et des gens des quartiers qu'on, par idéologie, par manque d'éducation, par plein de raisons pour chacun des combattants, qu'on ont pris les armes en 2014, avant.
D'autres questions dans l'assistance? Madame.
Je voudrais vous remercier pour le film qui était très bien.
Merci.
Et je voudrais aussi vous poser, vous avez répondu à une question que je voulais poser, mais je vais vous en poser une autre. Est-ce que vous avez eu peur quelquefois?
Je mentirais si je disais que je n'ai jamais eu peur. Bien sûr qu'il nous arrive d'avoir peur, qu'il m'est arrivé d'avoir peur. Et si je n'avais pas peur, ce serait même plutôt inquiétant. Donc oui, effectivement, il m'est arrivé d'avoir peur plusieurs fois.
C'est cette même armée irakienne qui avait fui face à l'avancée de l'État islamique en mai 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 2 ans qui a transformé ces hommes en des chiens de guerre aussi efficaces qu'on les voit dans ton film ?
Les troupes qui ont quitté Mossoul ne sont pas les forces spéciales irakiennes. Ce sont les troupes de l'armée régulière, hein. De l'armée. C'est ça ?
Oui. Oui. C'est une force spéciale qui sont formées depuis 2004 par les Américains, qui servaient à faire des vraies opérations de contre-terrorisme, donc. Ou faire enfin sauver des otages, récupérer des gens comme ça. C'est pas eux qui tenaient Mossoul et qui se sont effondrés quand l'État islamique est arrivé en très peu de temps. Après, c'est vrai que l'expérience qu'ils ont acquis depuis 2014 dans une espèce de reconquête de l'Irak, avec l'expérience qu'on apprend, ces gens-là ont énormément appris. Et ce qu'ils ont été capables de faire en se battant pendant 3 ans d'affilée dans toutes les villes, avec cette bataille à la fin qui est Mossoul, avec 1 million de civils dedans, qui est une ville énorme, qu'ils font très méthodiquement, bien sûr que ça en fait aujourd'hui une force extrêmement expérimentée dans la région, si ce n'est pas l'une la plus expérimentée.
Une autre question dans le public? Vous avez un micro? Non. Je vais en poser une petite en attendant. On entend beaucoup parler des forces kurdes actuellement et des Peshmerga qui ont eu une attitude déterminante dans certaines de ces batailles. Dans la bataille de Mossoul, les Kurdes, là, on ne les voit pas du tout. Ils ne sont pas présents du tout.
De Mossoul même, non.
Même ils n'ont pas dans le périmètre
alors,
dans de
villages,
Mossoul.
Ils ont pris quelques villages. Alors, ils ont pris quelques villages avant Mossoul, avant que ne commence la bataille de Mossoul. Voilà.
Question de monsieur là-bas.
Bonsoir. Est-ce que vous vous jugez comme un poids lourd, un ralentissement pour l'avancée des forces spéciales, en fait ?
Est-ce que je les ralentis ? Non, 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 je ne pense pas. Enfin, j'espère. Et comme ils sont très bien sortis, donc j'espère même... Non, je ne pense pas du tout les avoir ralentis. Ma présence... gêner l'avancée des forces spéciales, si ma présence, si je n'étais pas le bienvenu, le commandant de l'unité m'aurait déjà dégagé de ses troupes depuis longtemps. Non, il m'avait accordé ce privilège, un privilège qui était très rare, que j'ai partagé avec très peu de journalistes comme Laurent et Gwendoline. Et non, on n'a pas été gêné, on n'a pas gêné l'avancée.
Une autre question. Ici à droite.
Bonsoir. Je voulais vous demander, dans votre reportage, est-ce que vous avez exercé l'autocensure ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tourné des images irrecevables aux yeux du public et que vous auriez préféré enlever ?
Quel genre d'image ? Je ne me suis jamais autocensuré. Jamais. Et les troupes que j'ai suivies, je n'ai jamais été empêché de filmer quoi que ce soit. S'il y avait, par exemple, je ne sais pas si particulièrement, s'il y avait eu par exemple une exaction à l'égard de la population civile, je ne l'aurais pas caché et je l'aurais montré. Il y a deux épisodes, brefs, dans le reportage où les forces spéciales ne sont peut-être pas forcément... au top avec les civils, je le montre dans le reportage, je ne me censure pas.
Des dernières questions peut-être ? Là-bas à droite.
Bonsoir, j'aurais aimé savoir s'il y a une expérience que vous devriez retenir, une leçon de vie, un sentiment, lequel serait-il ?
Un sentiment. J'ai gardé beaucoup de respect pour ces jeunes soldats qui m'ont accordé leur confiance pendant tous ces longs mois. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Certains d'entre eux malheureusement ont été tués, d'autres sont blessés, d'autres ont dû quitter les forces spéciales, mais sans eux je n'aurais jamais pu faire ce film, donc c'est probablement ce qui m'a marqué le plus.
D'autres questions dans le public ? Allez, on prend deux dernières questions et puis on fera un dernier round d'applaudissements. Ici là-haut, monsieur avec l'écharpe verte.
Bonsoir. J'avais une question plus générale en fait. Du point de vue de nous en France, on voit Daesh comme une guerre de religion. Et du point de vue des Irakiens qui ont la même religion que ces gens-là, l'islam, Comment il se situe par rapport à ce conflit, en fait ?
Ça dépend des Irakiens, d'abord. Vous avez certains Irakiens où c'est aussi clairement une guerre de religion. Il y a souvent des références religieuses, extrêmement souvent dans le discours des Irakiens, d'une manière générale. Donc vous allez avoir alors ça dépend si on parle des civils, des soldats, mais des Irakiens chiites pour qui, oui, c'est clairement un danger mortel, puisque pour les sunnites et le groupe sunnite État islamique, les chiites doivent être exterminés jusqu'au dernier, il n'y a pas tellement de débat. Après, sur la guerre de religion, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Il y a plein d'Irakiens qui vous diront qui voient un petit peu comment tout ça est arrivé, pourquoi des gens ont rejoint les rangs de l'État islamique, qui vous parlent des causes, qui vous parlent de l'éducation, qui vous parlent d'un gouvernement qui ne s'est pas assez occupé d'eux. Enfin, toutes ces raisons-là. Et puis après, il y a ce qui reste la nature de l'État islamique. C'est des gens qui ont une vraie idéologie et c'est des gens qui sont vraiment musulmans. Avec leur idéologie, leur lecture du texte, certes, mais ce sont vraiment des musulmans. Et on entend en Irak, comme on peut aussi entendre en France, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. On l'entend aussi en Irak. Voilà, après, c'est un petit peu des discours différents, comme en France.
Mademoiselle, là-bas.
Je voulais savoir, est-ce que vous avez vendu votre film avant de partir, ou est-ce que vous l'avez vendu actuellement, et si oui, à qui ?
Si je pars sur un terrain difficile, sur une sorte de guerre, je ne pars pas à l'aventure, donc je suis toujours commissionné. Donc le sujet, évidemment.
C'était bizarre, ces bruits.
Donc je pars. Le sujet n'est jamais vendu avant qu'il ne soit fait de toute façon, mais je suis commissionné, donc je ne pars pas. À l'aventure en indépendant, en espérant vendre mes images sur une bataille. La première version sur Mossoul, j'ai travaillé avec différents networks. Le premier était Channel 4 News, qui est une chaîne anglaise, et le deuxième, c'est Frontline PBS, qui est chaîne nationale américaine.
Les chaînes, globalement, maintenant, n'encouragent pas vraiment des gens à aller de leur plein gré et en freelance total sur des terrains comme ça, en leur disant si tu ramènes quelque chose de bon coco, on l'achètera. Généralement, on préfère le commissionner d'abord et prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent. Je poserai une dernière question. La bataille d'Ouidja est en train de se dérouler. Il n'y a plus que des petites poches de l'État islamique sur le territoire irakien. Est-ce que c'est la fin de l'histoire, Gwendoline?
Ça dépend de quelle histoire. Non, militairement en tout cas, l'État islamique, alors il reste quelques villes à la frontière dans la région d'Anbar, mais militairement en tout cas, l'État islamique en tant qu'État n'administre plus aujourd'hui de villes en Irak. Il n'en administre plus non plus en Syrie. On est dans des villes où même si les assauts n'ont pas commencé, on est sur une période de combat, donc il n'y a plus d'administration du territoire. Comme il l'avait. Après l'idéologie, on voit ce qui s'est passé dans l'Anbar vers Hit, il n'y a pas longtemps, où l'État islamique a fait des raids, ça va se transformer en ça, une espèce de hit and run avec du harcèlement. Et encore une fois, c'est pas parce que militairement, c'est important que militairement l'État islamique ait été défait, puisque c'était sa différence avec Al-Qaïda, puisqu'il contrôlait des territoires, qu'il avait de l'argent, enfin l'administration et ce qu'on sait. Donc la défaite militaire est importante. Après, on revient au problème de l'idéologie, et l'idéologie, elle n'est pas morte. Ils ont perdu beaucoup de choses dans ces batailles, moi je pense, notamment parce que les gens de Mossoul le disent, c'est assez intéressant d'ailleurs, à l'est de Mossoul, ces gens-là ne sont pas devenus d'un coup, ou disent pas Bagdad c'est génial, le gouvernement central, etc. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que l'État islamique, c'est non, ils ont été vraiment, vraiment trop loin. Et des gens qui peuvent reconnaître en plus qu'au début, ils les voyaient plutôt d'un bon oeil, ils ont été trop loin. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ne fumaient pas avant l'État islamique qui sont mis à fumer, des gens qui ne vont pas à la mosquée aujourd'hui alors qu'ils sont musulmans pratiquants, mais juste, ils ont été trop forcés. Et ça, c'est, je pense, une vraie défaite dans l'application qu'a eu l'État islamique de ce pourquoi il a été créé, en tout cas son désir d'administrer des territoires, donc il a perdu là-dedans. Après, l'idéologie... Il y a quand même quelques problèmes politiques en Irak, notamment dans l'intégration des sunnites. Et en ce moment, c'est quand même, tout ça est assez compliqué. Tant que ça ne sera pas réglé, est-ce que ce sera réglé un jour? Moi, j'en sais rien, mais l'idéologie n'est évidemment pas morte, certainement pas.
Olivier, c'est quoi la prochaine bataille?
Non, assurément, je ne pense à aucune bataille pour le moment. Peut-être me reposer un petit peu.
Merci beaucoup à tous les participants, merci à vous le public.